Bonjour Lucas Matzek.
Bonjour.
Comment est-ce que vous observez cette campagne électorale de l'année 2025 jusqu'à présent?
Alors forcément un peu de loin, mais avec quand même beaucoup d'intérêt. Je trouvais globalement que pendant longtemps, et aussi sans doute à cause du timing avec les mois d'été, etc., je trouvais que c'était une campagne assez calme. Et globalement, alors c'est peut-être une erreur d'optique du fait que j'observe ça de loin, mais je trouve que c'est une campagne relativement posée par rapport à certaines campagnes qu'on a pu connaître par le passé ou par rapport à ce qu'on peut voir dans certains autres pays. C'est-à-dire, je trouve que le côté passionnel, enfin, il y a des propos forts, il y a des slogans, il y a des attaques qui sont robustes, mais je trouve que ça reste relativement, enfin, je trouve que ça reste dans des limites, dans les limites raisonnables, mais encore une fois, c'est peut-être un regard rendu peu apaisé par la distance.
Peut-être que le ton va monter dans les derniers jours de campagne, sait-on jamais. En tout cas, on se rend compte que malgré ses démêlés judiciaires et aussi malgré son passé controversé, eh bien, Andrei Babiš, le leader du mouvement ANO, reste le grand favori dans les sondages. Comment est-ce que vous expliquez cette résilience politique?
Alors, d'une part, je trouve que c'est un phénomène qu'on observe un peu partout, c'est-à-dire des leaders qui ont un profil. Alors, après, il faut faire attention à des comparaisons hâtives. Il s'agit toujours des profils spécifiques, mais des leaders forts qui, effectivement, évoluent dans un registre politique qu'on qualifie souvent de populiste et qui ont perdu le pouvoir. En fait, arrive à revenir. On voit ça, bon, évidemment, aux États-Unis, mais on le voit en Slovaquie, on le voit d'une certaine manière. Il y a une esquisse de cela en Pologne avec l'élection présidentielle qui a suivi la défaite du PiS face à Donald Tusk aux législatives. Donc, je trouve que ce phénomène des leaders qui, à un moment donné, sont battus, et je pense qu'il y a un dénominateur commun, c'est-à-dire, surtout en Europe centrale, des leaders qui étaient battus parce que face à eux, on a construit une coalition large qui était cimentée par la conviction que ces leaders sont un danger pour l'avenir du pays, pour l'évolution des institutions démocratiques, etc. Ces coalitions, en fait, arrivent à se mobiliser, arrivent à mobiliser des électeurs et à battre une fois ces personnalités. Mais après, une fois que ces coalitions arrivent au pouvoir, elles rencontrent des difficultés liées, entre autres, à l'hétérogénéité politique qui les caractérise au-delà de sentiments partagés qu'il fallait battre celui qu'ils viennent de battre. Et ça se traduit par une pratique gouvernementale qui déçoit, qui fait perdre des électeurs et qui ouvre la voie à un retour plus ou moins fracassant de celui qui a été écarté juste avant. Donc je crois que ce mécanisme, on l'a aussi en République tchèque, alors dans des formes peut-être plus atténuées, c'est-à-dire notamment si on compare cela à la défaite et puis le retour de Robert Fico en Slovaquie, je pense qu'on est sur des choses moins extrêmes, moins radicalisées. Dans tous les sens, hein, qu'il s'agisse du côté de la coalition gouvernementale ou du côté du coup de Robert Fico. Mais je vois un certain nombre de parallèles. Après, je pense aussi qu'effectivement, le gouvernement Fiala n'a pas su contrer un discours extrêmement dur et négatif sur son bilan. Un discours qui est assez étonnant lorsqu'on regarde des paramètres qu'on a l'habitude de regarder pour anticiper un peu les chances des uns et des autres à une élection, hein, qu'il s'agisse des indicateurs économiques, qu'il s'agisse de questions de stabilité. Par exemple, en Slovaquie, il y avait un spectacle très désolant d'instabilité au sein du gouvernement, de gros conflits, et finalement la coalition a explosé en plein vol, d'une manière qui effectivement devait être très frustrante pour les électeurs. On n'a pas vraiment assisté à ça en République tchèque. Bon, il y a eu le départ du parti pirate, mais globalement, on a eu quand même un gouvernement plutôt stable. On a des indicateurs économiques qui sont plutôt bons. Et malgré ça, effectivement, ce gouvernement n'a pas su contrer un discours extrêmement dur qui lui est opposé par Anno et par les autres partis d'opposition. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que franchement, ce retour d'Andrei Babiš, c'est un retour annoncé depuis longtemps. Et la surprise, ça serait plutôt si finalement ce retour est plus compliqué que prévu, ce qui n'est pas impossible au vu des derniers sondages.
Vous parlez de la radicalisation et ce qui est plutôt étonnant du côté de Babiš, qui ne s'est pas passé avec Robert Fico du côté de la Slovaquie, c'est même l'évolution au sein du Parlement européen avec son parti Anno, son mouvement Anno, qui était membre du même groupe que le parti d'Emmanuel Macron, notamment donc chez les libéraux, et qui est venu former ce groupe des patriotes, de ceux qui s'appellent les Patriotes pour l'Europe, avec notamment le Rassemblement national français. Il y a une évolution là qui est notable. Est-ce que ça lui sert, ce niveau européen, au niveau national, selon vous?
Je ne crois pas. Je pense que pour l'immense majorité des électeurs tchèques, ce sujet est à peine visible. Bien sûr que ça peut jouer à la marge. Je pense que pour une partie de l'électorat, des partis gouvernementaux, l'affiliation européenne et l'alliance, les alliances européennes d'Anno peuvent renforcer quelque part le discours qui consiste à mettre en garde contre Anno par rapport à sa future possible politique étrangère et l'orientation géopolitique du pays, etc. Mais je pense qu'on est plutôt dans le registre de convaincre des gens qui sont déjà convaincus. Je pense que le noyau dur d'Anno est tout à fait insensible à ce genre de questions. Il y avait sans doute une petite marge. Vous savez, Anno a quand même changé d'électorat progressivement depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, si on regarde le profil type de l'électeur d'Anno aujourd'hui et celui de 2014, je pense qu'il y a quand même une différence très importante. Et donc oui, je pense que ce changement d'alliance au niveau européen, il a sans doute parachevé le divorce entre Andrei Babiš et son parti et son mouvement et une partie de l'électorat qui a pu le soutenir en 2014. Et même dans son entourage, j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de gens qui ont pris leur distance et ont. Mais finalement, ce n'est que l'achèvement d'une tendance qui est là depuis 2000. 16, 17, avec le départ comme des personnalités, bah, comme Pavel Telička pour parler justement de la dimension européenne, ou quelqu'un comme M. Zlatuška, etc. Donc il y avait toute une série de personnalités qui se sont alliées à Andrej Babiš en 2014 et qui l'ont quitté. Et je pense que les derniers qui hésitaient encore, bah, ils étaient peut-être précipités par ce changement d'alliance européenne. Après, je crois que pour faire play avec Anno, je trouve que c'est un mouvement qui n'avait pas sa place dans Renew. Clairement, ils y étaient parce que dans la législature où ils étaient pour la première fois au Parlement européen, ils étaient amenés par Pavel Telička qui, lui, pour le coup, convenait tout à fait, que correspondait tout à fait au profil de Renew, mais c'était un peu malgré Andrei Babi, je dirais. Et puis, assez rapidement, il est apparu qu'au sein de Renew, ce parti était quand même un élément un peu étrange et un peu décalé. Et à leur décharge, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans le groupe où ils sont, c'est-à-dire quelque part dans Renew, ils étaient l'élément le plus libéral et le moins conforme à la ligne majoritaire du groupe. Et aujourd'hui, je dirais qu'ils sont la partie ou la composante la plus modérée et la moins extrême et la moins eurosceptique, etc., de ce nouveau groupe. Donc, quelque part, dans les deux cas, je trouve qu'ils sont. Ils étaient et ils sont pas à leur place. Et dans les deux, et pour revenir à cette idée de radicalisation, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'élément le plus notable de la radicalisation, il se situe au niveau de la politique européenne et au niveau des alliances européennes. Alors que sur le plan national, cette radicalisation est moins évidente, moins nette et moindre, je pense. Ce qui est effectivement à peu près l'exact opposé de Robert Fico, où il y a une très forte radicalisation sur le plan domestique il y a une forme de profil bas pour le moment, en tout cas au niveau européen. Cela dit, je pense qu'il y a un élément qui va être très important pour la suite. Ça sera la question des alliances domestiques après les élections. C'est-à-dire, je pense que chez
J'allais vous
André
poser la
Gauvin
question.
et Anand,
Est-ce que vous sentez du côté de Bruxelles et des institutions européennes de l'inquiétude quant à ce potentiel retour d'Andrei Babich au pouvoir, compte tenu de ses potentiels partenaires de coalition dont certains revendiquent haut et fort notamment un référendum pour la sortie de l'Union européenne?
alors, je pense que ça dépend un peu du niveau d'information et de compréhension de la politique tchèque des interlocuteurs européens. Ceux qui ont une vision très superficielle, très lointaine, il y a une assez forte inquiétude parce qu'ils assimilent tout simplement, du fait de son affiliation européenne, ils assimilent la victoire d'Andrei Babiš à ce que serait la victoire d'une Marine Le Pen en France, à ce qu'est le gouvernement de Viktor Orban en Hongrie, à ce que serait un gouvernement Salvini, si c'est M. Salvini qui devient Premier ministre en Italie, etc. Et donc là, évidemment, il y a une inquiétude, et je la ressens aussi, par exemple, du côté de certains journalistes français qui, ces derniers temps, ont pu me poser des questions en disant, est-ce que c'est vrai qu'en République tchèque, l'extrême droite va gagner les élections? Après, il y a ceux qui connaissent un peu mieux, et notamment ceux qui ont connu Andrei Babiš quand il était aux responsabilités avant 2021, qui sont un peu désorientés, un peu étonnés par ces évolutions, mais qui quand même voient ce qui, à mon avis, est la règle des jeux, c'est-à-dire c'est quand même quelqu'un qui, par certains côtés, effectivement, justifie ses inquiétudes, mais par d'autres, donne quand même un certain nombre de gages. Et donc, effectivement, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, Arnaud est certainement un élément plutôt modéré de groupe Patriote pour l'Europe, plutôt que certains autres partis que j'ai cités. Et du coup, je pense que l'élément qui va vraiment décider finalement qui entre ces deux groupes-là a raison, ça va être effectivement la question d'alliance. Et je pense qu'il reste un potentiel de radicalisation d'Andrei Babiš et de son mouvement qui pourrait se développer pleinement s'il est tiré dans cette direction-là par une coalition gouvernementale qui l'obligerait ou qui l'inciterait à effectivement donner des gages sur des questions comme l'appartenance à l'OTAN, à l'Union européenne, les relations à la Russie, à l'Ukraine, etc.
Dans ce contexte-là, on parle dans ce contexte-là de plus en plus du rôle futur joué par le président de la République, Peter Pavel. Je me souviens qu'avec vous, on avait, il y a quelques années de cela, parlé du pouvoir de nuisance à l'époque du chef de l'État, Miloš Zeman, qui avait un peu abusé de la Constitution tchèque et en tout cas abusé des flous qui subsistent dans le texte. Est-ce que la position du président Petr Pavel vous paraît assez solide pour pouvoir exiger notamment des gages d'Andrei Babiš au niveau de ses conflits d'intérêts?
J'ai été critique de certains agissements de Miloš Zeman et je reste fidèle à ce que je pense, c'est-à-dire je trouve que la Constitution donne un rôle au président de la République et sans doute la période qui suit les élections et la période de la composition, de la construction d'une nouvelle coalition gouvernementale est un des moments de gloire d'un président de la République, car la Constitution lui donne des vrais moyens d'influence, voire de pression, et il est tout à fait légitime de les utiliser. Après, je pense qu'il faut pas aller au-delà. Et je pense que Miloš Zeman ou avant lui Václav Klaus, parfois, peut-être effectivement, outrepasser ou en tout cas flirter avec ce qui, à mon avis, est la limite d'une interprétation raisonnable des marges que le président a après les élections, après la constitution d'une nouvelle Chambre des députés. Donc voilà, ma réponse, elle est un peu ambiguë parce que tout dépend d'énormément de paramètres. Oui, je pense que Petr Pavel a à la fois des convictions et la légitimité pour influer et pour d'une certaine manière chercher à canaliser les éventuelles prises d'initiative du vainqueur des élections, mais à un moment donné, il ne peut pas s'opposer à une volonté qui s'appuie sur une majorité, sur la volonté d'une majorité des élus de la nation. Donc, voilà, j'espère qu'il saura trouver le bon dosage. Je l'espère pour lui, mais surtout pour le pays, parce que je trouve effectivement que des tiraillements qu'on a pu avoir à ce niveau-là par le passé étaient mauvais pour la démocratie et l'état de droit en République tchèque. Donc j'espère que là, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'il doit immédiatement accepter tout, qu'il doit juste. Le président n'est pas non plus un robot qui ne ferait que valider des choses qui lui arrivent de la part du vainqueur des élections, mais il ne peut pas durablement bloquer une volonté politique qui se structure autour d'une majorité parlementaire.
Est-ce qu'on peut entrevoir un revirement plutôt radical de la politique étrangère tchèque si Andrej Babiš revient au pouvoir, ou là aussi évidemment cela va dépendre des potentielles coalitions, mais par exemple sur l'Ukraine, on parle de l'initiative des munitions pour l'Ukraine qui pourrait être arrêtée. Je pense également à des sujets comme Taïwan et le soutien à Taïwan très très actif de Prague jusqu'à présent. Est-ce que ça peut changer du jour au lendemain?
Alors, tout dépend de la coalition. Encore une fois, si c'est une coalition avec SPD et a fortiori si le rêve du SPD de récupérer le ministère des Affaires étrangères se réalise, je pense qu'on peut effectivement s'attendre à des revirements assez spectaculaires. Maintenant, est-ce que c'est l'intérêt d'Andrej Babiš d'accepter ça? Est-ce qu'il accepterait ça? Est-ce que dans une forme de partage de tâches entre lui et justement le président de la République qui certainement ferait comprendre ses réticences, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'empêcher ce scénario, même si c'est avec le SPD que la coalition serait faite? Voilà, je me pose cette question et je pense que et tout dépend aussi des résultats électoraux, tout dépend de l'avance que Andrej Babiš aura en nombre de députés à la Chambre. Tout dépend aussi de. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'inconnus aujourd'hui. Donc je pense que la probabilité d'un revirement vraiment radical, global, qui vraiment reconfigurerait la politique étrangère d'une manière qu'on a pu voir en Slovaquie, ou peut-être même plus qu'en Slovaquie, parce que même en Slovaquie, il y a quelques limites à ça. Je pense que c'est quand même quelque chose qui reste relativement peu probable, parce que je ne pense pas que ça correspond à l'aspiration première d'Andrej Babiš et de son mouvement. Maintenant qu'il y ait des éléments, et notamment un certain nombre d'initiatives ou de réalités qui sont devenues des symboles, qui sont devenues des sortes de marqueurs du débat politique, et que du coup le nouveau gouvernement voudra, pour donner des gages à son électorat, montrer qu'il se distingue du gouvernement précédent, et que par exemple l'initiative sur la munition puisse avoir ce statut-là et donc être abandonnée quelque part au nom de la volonté de rupture, de volonté de marquer la rupture avec le gouvernement précédent. Ça, je pense que c'est tout à fait possible et même peut-être probable, parce que c'est des sujets sur lesquels des représentants danois se sont exprimés, ils ont annoncé déjà leur volonté de revenir dessus, etc. Après, comme toujours, une fois qu'ils auront la responsabilité gouvernementale, il y aura plein d'autres facteurs qui vont commencer à jouer, et donc on peut aussi imaginer des ruptures un peu en trompe-l'œil, c'est-à-dire ce que d'ailleurs dans une certaine mesure a fait même Robert Fico, c'est-à-dire des grandes annonces et des grands affichages d'éléments de rupture avec derrière des éléments de continuité qui quand même continuent à exister, alors peut-être sur une base différente, avec une dimension commerciale plus importante, etc. Mais pour citer un autre pays, pour le coup, qui n'a rien à voir, mais sur ce point est comparable, la position de la Serbie aussi, qui joue un espèce de double jeu entre le discours officiel et la réalité de ce qui se passe derrière. Donc, et connaissant quelque part aussi le passé politique d'Andrej Babiš, je pense qui pourrait être assez friand de ce genre de d'entre-deux, c'est-à-dire des annonces fracassantes, des ruptures affichées de manière forte en apparence, avec des faits peut-être un peu plus dans la continuité.
À ce propos, et ce sera ma dernière question, Lukasz Matzek, ceux qui nuancent évidemment les comparaisons avec les voisins Viktor Orban et Robert Fico font valoir que Andrej Babiš, c'est d'abord le fondateur d'un conglomérat, d'un groupe industriel très très important et qui a des affaires surtout avec l'ouest de l'Europe, l'Europe centrale. Pas avec la Russie, et donc ce serait un facteur très important dans les futurs rapports avec l'Union européenne. Qu'en pensez-vous?
J'entends ce discours, je le partage dans une certaine mesure, mais je ne le surestimerai pas. J'en ajouterai un autre. Je pense que la grande différence entre Andrej Babiš d'un côté et Viktor Orban, ou a fortiori d'un Jarosław Kaczyński en Pologne, c'est que ce n'est pas un idéologue. C'est quelqu'un et sa carrière politique, et ce que je disais tout à l'heure sur l'évolution de son électorat, et donc qui dit évolution électorale dit évolution du message politique par lequel il cherche à attirer les électeurs. Je pense qu'Andrej Babiš est un pragmatique et quelqu'un qui, fondamentalement, il n'est pas habité, me semble-t-il, par une vision idéologique de restaurer ceci ou cela, de défendre un modèle. Enfin, voilà, il n'y a pas une conception idéologique de ce qu'est et de ce que devrait redevenir la République tchèque. Il peut utiliser ce genre de registre de temps en temps parce qu'il sent qu'électoralement, ça peut lui faire gagner quelques voix par-ci ou par-là, mais fondamentalement, il n'est pas là-dedans. Peut-être ça, c'est le facteur plutôt rassurant. Le facteur un peu moins rassurant, c'est que par contre, ce qu'il partage avec ces personnes et avec bien d'autres, c'est le côté un peu revanchard. C'est-à-dire, c'est ce que je disais au tout début, quelqu'un qui était au pouvoir, qui a perdu le pouvoir dans des conditions qu'il a jugées pas justes, hein, quelque part le syndrome d'une victoire volée, etc. Quelqu'un qui se sent du coup écarté de pouvoir d'une manière qu'il n'a pas digérée et qui cherche à revenir et qui revient dans un esprit de revanche. Et je trouve que c'est ça qui crée un potentiel de dérive, de radicalisation, notamment dans une volonté de ne plus jamais ça. C'est-à-dire, si je reviens, ce n'est pas pour que je perde à nouveau. Et
Et
ça, évidemment,
qui met
c'est...
des casquettes Trumpistes avec
Tout à fait.
l'équivalent tchèque.
Donc, évidemment, vous avez compris que j'avais beaucoup en tête Donald Trump en disant tout ça. Donc, voilà, ce qui m'inquiète chez Andrej Babiš, c'est, et je ne le connais pas personnellement et je ne le côtoie pas, donc je ne sais pas où il en est aujourd'hui, mais ce qui m'inquiète potentiellement, c'est cet esprit de revanche et ce qu'il pourrait en déduire pour sa pratique de pouvoir et pour des tendances à cimenter ce pouvoir au détriment du coup de la qualité de la démocratie et de l'état de droit en République tchèque. Ce qui me rassure, c'est qu'effectivement, je trouve qu'il n'a pas un agenda idéologique et il n'est pas dans une forme d'intégrisme idéologique. Il n'est pas habité par le sentiment d'une mission providentielle ou même divine, comme peuvent l'être certains des leaders aujourd'hui. Et ça peut rendre optimiste. Qu'on aura un leader capable des compromis, capable d'accepter qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et par ailleurs, je pense que la République tchèque est dotée des contre-pouvoirs plus solides que la Hongrie ou que la Slovaquie, ne serait-ce qu'à cause de la Chambre haute qui existe chez nous et pas dans ces deux pays, à cause d'une présidente de la République qui aujourd'hui clairement jouera un rôle d'équilibre par rapport à la coalition d'André Babiche, une Cour constitutionnelle plutôt droite dans ses bottes, etc. Donc, pour toutes ces raisons, je fais partie de ceux qui disent à des interlocuteurs étrangers, n'allez pas trop vite en besogne dans l'assimilation de ce qui va probablement arriver en République tchèque à ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais il y a des éléments qui peuvent aller dans l'autre sens, j'en suis tout à fait conscient. Donc, ce qui sera fondamental, c'est de voir les résultats de l'élection déjà, le degré d'avance d'André Babiche par rapport à la coalition gouvernementale, etc. Et ensuite, quelle alliance il va forger, avec qui, sous quelles conditions, avec quel contrat de coalition. Et c'est ça qui va donner le ton pour la suite. Et puis aussi, évidemment, se posera la question de stabilité, c'est-à-dire on peut aussi imaginer un scénario qui ne va pas tenir très longtemps et qu'on rentrerait dans une phase d'instabilité comme certains pays européens le connaissent.
Lukasz Matzek, merci beaucoup. J'espère qu'on pourra analyser les résultats de ces élections et les négociations qui s'en suivront avec vous. Je vous souhaite une très agréable journée.
Merci à vous et bonne continuation.